Utopod 006, 26 mai 2007. Goûter, savourer, en reprendre, de Jean-Pierre Andrevon. Attention, le contenu de l'émission d'aujourd'hui est réservé à un public averti. Nous le déconseillons aux jeunes enfants et aux âmes sensibles. Bonjour à tous, ça y est, Utopod est de retour après trois petites semaines de silence radio, ou de silence internet devrais-je plutôt dire. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, je m'appelle Lucas Moreno et je coproduis ce podcast avec Marc Tiefenauer. Dans chaque épisode, nous vous offrons une lecture à voix haute d'une nouvelle francophone relevant des genres de l'imaginaire. Plus d'infos sur www.utopod.com. N'oubliez pas d'écouter les épilogues de nos émissions où nous annonçons régulièrement des événements relatifs aux littératures de genre en France et ailleurs. Le récit que nous vous offrons aujourd'hui de Jean-Pierre Andrevon s'intitule « Goûter, savourer, en reprendre ». Il est tiré de « Territoire de l'angoisse », anthologie parue en 2001 aux éditions Silibris sous la direction de Daniel Conrad. C'est un superbe texte de gastronome qui n'est pas sans faire écho à La fin du monde, de Xavier Mauméjean, que nous avons présenté récemment dans Utopod. Jean-Pierre Andrevon est une géante bleue dans la constellation de l'imaginaire littéraire francophone. Un de ces auteurs cultes qu'on ne présente plus. Une entité protéiforme qui évolue dans les domaines artistiques et professionnels les plus variés. Journaliste, critique cinématographique et littéraire, chroniqueur BD, anthologiste, enseignant, dessinateur, peintre, illustrateur, auteur-compositeur-interprète, cinéaste, bref, la liste de ses casquettes est longue. Mais, comme l'annonce d'emblée la bio de son site, c'est la littérature qui mobilise l'essentiel de ses efforts créatifs. Écrivain depuis l'adolescence, il publie sa première nouvelle professionnelle en 1968 dans le magazine Fiction. À ce jour, sa bibliographie compte plus de 100 ouvrages et plusieurs centaines de nouvelles. Il a obtenu de nombreuses distinctions littéraires, dont le prix Julia Verlanger 2006 pour son roman Le Monde Enfin. Son style inimitable, à la fois somptueux, rieur et piquant, son engagement idéologique jamais démenti, ainsi que sa subtile maîtrise de la narration, font de Jean-Pierre Andrevon l'un des auteurs majeurs de la science-fiction d'expression française de ces dernières décennies. Vous trouverez le lien vers son site personnel dans l'article qui accompagne l'épisode d'aujourd'hui. La lecture de Goûter, savourer, en reprendre est assurée par Philippe Hertig. Philippe est un conteur né. Il a la syllabe onctueuse, le phrasé croustillant, le verbe qui crépite. Il est né à La Chaux-de-Fonds, en Suisse romande, par un hiver froid et neigeux alors que faisait rage la bataille de Stalingrad. Ingénieur civil de formation, il se passionne à la fois pour les sciences et la littérature, domaine qu'il considère comme frère et qu'il a souvent eu l'occasion de conjuguer dans le cadre de son travail. Quand on lui pose la question, il se qualifie volontiers d'ingénieur littéraire. Après plus de 30 ans passés à travailler comme spécialiste des structures en acier en Suisse, au Canada et en Iran, puis 9 de plus comme sociologue statisticien pour la Confédération, il compte prendre sa retraite très prochainement et consacrer une grande partie de son temps à la lecture et à l'écriture. Voilà pour les présentations. Et maintenant, prenez le temps de digérer votre dernier repas, activez les clôtures de protection et place à la littérature.
Goûter, savourer, en reprendre, de Jean-Pierre Andrevon. Je commence d'ordinaire par la cervelle, non parce que ce serait l'organe le plus noble de la bête, mais parce qu'entre tous, c'est celui qui se dégrade le plus vite, qui risque le plus vite de s'affaisser, de couler, de se ratatiner à l'intérieur de la boîte crânienne et, pouf, de sentir. La cervelle, masse d'un joli gris rosé, douce éponge à la consistance aimable où nul n'est besoin de couteau pour en détacher les parcelles, une cuillère suffit, doit être consommée telle qu'elle, telle que nous l'offre la nature. Honte à qui serait tenté par l'idée saugrenue de la faire cuire. Même à l'étouffer, c'est une hérésie qui en condamne irrémédiablement la finesse extrême. Quant à l'extraire de sa cavité naturelle, je sais que beaucoup trop d'entre vous usent encore de cette méthode rustaude. Il faut s'en garder. On y perd du jus, des humeurs. Le volume renflé du double encéphale s'en ressent, qui risque de s'altérer par fuite de matière. Non, il faut déguster la cervelle dans son coquetier d'os, proprement découpé à la scie circulaire, attention cependant aux projections d'esquilles. C'est la seule façon de procéder qui permet d'en conserver la fraîcheur, la consistance de chair d'avocat bien mûre, les effluves qui ne ressortent pas tant au carnet qu'au végétal doucement macéré au soleil. Le goût, enfin, le goût surtout, cette délicate et quasi indescriptible saveur saline, marine, qui ne s'attarde sans doute pas sur la langue, mais fait le délice du palais. Avant d'attaquer ce que nous devons considérer comme une simple mise en bouche, on peut agrémenter la cervelle d'une minime vaporisation de jus de citron, éviter le vinaigre, qui donne du corps à l'onctuosité cérébrale. De plus, si la bête que vous avez commencé à déguster a été fraîchement tuée, vous bénéficierez du plaisir indicible de voir la gelée translucide trembler légèrement, voire se rétracter sous l'attaque de cette acidité. Ensuite, n'attendez plus, piochez. La tête de la bête recèle d'autres parties comestibles, même si leur saveur n'atteint pas la haute tenue de la masse cérébrale. Vous pouvez par exemple gober les globes oculaires, ceux-ci ayant préalablement été pochés. Mais attention, pas plus de 3 minutes et demie, faute de quoi leur surface deviendrait rigide comme de la corne et l'intérieur pâteux comme du sein doux. Cuits à point, ils auront la consistance du tendre flageolet et, aux papilles, la saveur atténuée d'un poisson blanc de rivière. Je n'évoquerai la langue que pour préciser qu'elle est plutôt ligneuse. Mais on pourra avec profit la mêler au hachis de foie et de rognon dont nous allons bientôt parler. Pour en finir avec le chef, certains prennent plaisir à grignoter une oreille ou deux. Cuites à la braise, le goût en est correct, mais il s'agit plutôt là d'une fantaisie. Le plaisir qu'on en retire étant principalement de sentir craquer sous la dent les cartilages douteux dont elle est constituée. Si nous passons maintenant au corps, ou plus exactement au tronc, il va de soi qu'on se sera débarrassé au plus vite de l'interminable rouleau des viscères, qui peut puer extrêmement si la bête a eu de son vivant de déplorables habitudes alimentaires, par exemple un régime trop riche en viande. Je n'ignore pas que certains vont se repaître de ce genre de tripoux. Ne vous en déplaise, très peu pour moi. La poche stomacale et les flasques sacs pulmonaires, bien souvent encrassés de goudron et autres résidus de combustion hautement toxiques, suivront les viscères dans la bauge à cochon. Comme je l'évoquais plus avant, un entremets de choix pourra être confectionné avec le foie. Attention tout de même à son imprégnation alcoolémique. Les reins et, le cas échéant, la langue. N'ai-je rien oublié ? Oh, le cœur, bien sûr. Mais je vous déconseille d'utiliser ce muscle par trop coriace, dont la réputation est pour le moins usurpée. Le cœur, poubelle. Les autres organes hachés, broyés, additionnés de poivre noir, d'un rien de muscade et de fines herbes à votre convenance, seront cuits sous la cendre 1 heure ou plus, pour se voir réduits à un fin pâté apte à garnir une tourte. Il y faut certes de la patience et un bon tour de main. Mais alors, quel délice ! Le broyé à base de foie, convenablement assaisonné, fond dans le palais. La bête saine, ne nous cachons pas qu'elle est rare, recèle son fumet unique, cette odeur sui generis qui caractérise l'espèce et qui, il ne faudrait surtout pas nous le cacher, possède certains caractères d'accoutumance. Car dites-moi, qui de vous en a goûté sans avoir envie de recommencer ? Mais nous en arrivons maintenant au plat principal. Le buste. Nous avons coutume de l'appeler le dos, car c'est posé sur le ventre, dans son lit de légumes cuits sur la pierre brûlante, que la partie centrale de la bête doit être présentée. Il va de soi que les membres en auront préalablement été séparés. Il n'est certes pas rédhibitoire de les consommer en fricassé, mais il comporte tout de même beaucoup d'os aigus pouvant être dangereux, des nerfs visqueux, des ligaments coriaces, un derme épais, ce qui reste de viande rouge n'est que portion congrue. En période de vache grasse, si je peux m'exprimer ainsi, laissez donc les membres aux chiens, à la rigueur, à la domesticité. Et attaquons le dos. Le buste de la bête, est-il bien utile de le rappeler, aura été rôti au tournebroche, sur la flamme vive d'un bon feu de sarment rehaussé d'armoises, de genêts et de buis. La bonne vieille méthode. Mais je vous le demande, en est-il de meilleur? Et quel plus grand plaisir, ensuite, retenant encore un peu notre faim, que de jauger de l'œil et de la narine cet étalage croustillant de viande caramélisée qui brasille encore. Dégage une vapeur épicée propre à vous irriter l'œil et les muqueuses, répand son jus sirupeux par toutes les failles résultant du piquage de cuisson. On détaille le trapèze harmonieux des épaules, le dévalement triangulaire du dos vers la taille que l'esthétique doit préférer mince, l'évasement de la croupe qui bombe joliment, la courbure pleine des deux globes fessiers s'achevant sur les jambonneaux des cuisses tranchira. Au centre desquels un bouquet garni inséré dans le fondement apporte l'indispensable touche poétique. Négligeant les côtes, où il sera toujours temps de revenir pour en détacher quelques parcelles croustillantes, c'est là, dans ces parties arrière, aussi charmeuses au regard que fondantes dans la bouche, que nous devons apporter nos soins les plus aiguisés. Personnellement, je veille à découper de minces lamelles parallèles qui suivent de haut en bas l'architecture naturelle du fessier. La couche superficielle de peau presque noire a quasi la saveur de la réglisse. Une sous-couche qui nous permet d'atteindre la graisse, abondante à cet endroit de la bête, nous donne l'impression d'avaler sans avoir besoin de la mâcher une fondue de fromage riche en protéines lactées. Tranchant dans la troisième couche, nous touchons à la viande rouge, aux muscles, d'autant plus dur que, du vivant de la bête, la fesse saura travailler. Un nectar solide qui vous répand du feu dans les entrailles. Mais les mots, je le crains, sont impuissants à rendre compte de la réalité d'un tel festin. Quel désarroi alors sera mien au moment de passer au dessert. Car, le dos une fois découpé, désossé, éparpillé, une fois le fessier réduit à un cratère où il ne reste plus que des fétus à racler dans le ricanement de la ceinture pelvienne, il est temps, la panse plus que pleine, de se laver la bouche avec un peu de sucré. Le buste, avant que d'être mis au pal et placé sur le feu, aura été proprement affranchi de ses parties les plus fines, échues au pâtissier. Je veux d'abord parler des deux mamelles, qu'en termes de cuisine nous appellerons seins. Sur une bête méritoire, le sein doit être rond, ferme, abondant. Coupé net à la tache du buste, il est immédiatement mis à la glacière, fourré de fruits rouges confits, nappé d'un coulis de nougatine. Encore que certains préfèrent un nappage meringué. On sert glacé. Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde, car il serait bien dommage de partager un sein avec son voisin. C'est entier qu'on doit le savourer, cristallisé en surface, moelleux sous le dôme, tel le blanc battu d'un œuf à la neige. On savoure, on se retient d'avaler, on laisse un instant la dent s'agacer de sentir rouler la bille dure du téton qui, lorsqu'elle cède sous la canine, vous emplit la bouche d'un nectar solidifié évoquant un grain de raisin ayant baigné 10 ans dans un vieux marc de champagne. Mais le festin n'est pas terminé, pas tout à fait. Voilà le fin du fin, le délice des délices, la délicate coquille pubienne qu'une main d'artiste aura découpée méticuleusement, en suivant au tranchet, sans que le poignet ne défaille, le contour ovalisé jusqu'à la base, s'effeuillant en mince corolle friable couleur saumon, fleur de chair incomparable qu'en termes familiers on appelle le millefeuille. Ce petit soc de chair, pas plus grand que la paume de la main, est lui aussi placé en glacière. Mais, contrairement au sein, nul ajout ne lui est nécessaire, et son bouquet, sublime, ne saurait être contrarié. Raidi par le froid, on le serre, on le déguste tel quel. Si la bête est brune, la coquille est à l'origine couverte d'un fort pelage broussailleux. Avant de servir, on aura alors eu soin de la raser, mieux encore de l'épiler. Si la bête est blonde, la conque pubienne peut n'être semée que d'une frêle toison platinée, qu'un maître pâtissier pourra choisir de conserver, à la solde du dégusteur d'en retirer à mesure les fils d'or de ses dents. Quoi qu'il en soit, ce morceau de choix, ce morceau de roi ne peut que conclure le repas, car rien ne pourrait y succéder ni lui être comparé. Capiteuse, onctueuse, entêtante, grisante, lourde de saveurs liquoreuses où se mêlent le sucré et l'iodé, l'acide et le poivré, la cannelle et le clou de girofle, la vanille, la coriandre et le curcuma, le cumin et l'encens, le miel et la myrrhe, le safran et le gingembre, la coquille pubienne, une fois savourée jusqu'à la lie, vous laisse anéantie d'ineffable bonheur. Mais, un instant seulement, car la faim assouvie génère vite une autre faim. Qu'on ne s'en inquiète pas, mes frères, mes sœurs. La jungle urbaine qui s'étend à nos portes regorge d'un gibier indolent qui n'attend que nos couteaux. De bêtes à forcer, de belles femelles à abattre, à dépecer, à cuire, à manger. On chasse. Utapa.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour poursuivre l'exploration des univers littéraires de Jean-Pierre Andrevon, rendez-vous sur www.utopod.com. où vous trouverez des liens vers son site, sa bibliographie et ses ouvrages à acquérir en ligne. Merci pour tous les sympathiques messages et les commentaires que vous nous avez envoyés pendant ces 3 dernières semaines. Surtout, continuez à nous écrire, ça nous donne du cœur à l'ouvrage et ça nous fait toujours autant plaisir. Vous pouvez le faire à partir de notre site. Le nombre d'abonnés d'Utopod ne cesse d'augmenter. Nous sommes à présent à plus de 100 inscrits, ce qui n'est pas mal du tout, mais si nous voulons démarcher des sponsors, il nous en faut encore plus. Alors continuez à en parler autour de vous. Insistez sur le fait que l'abonnement se fait totalement gratuitement, très rapidement et très facilement à partir de notre site. Et un petit peu de pub maintenant. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les Lyonnes de l'ASF, précipitez-vous sur iTunes et téléchargez leurs tout derniers épisodes. Il s'agit d'un podcast en français consacré aux littératures de l'imaginaire. C'est très informel, très décontracté et très sympathique. On y trouve des interviews d'auteurs ou d'éditeurs, des comptes rendus de festivals, des résumés ou des critiques de livres et bien d'autres choses. Vous trouverez l'adresse du blog sur le site du Topod. Et puis dernièrement, au Festival Imaginal d'Épinal, Marc et moi avons fait la connaissance du duo Sébastien et Sébastien, les responsables de Libellus, la première maison d'édition de livres audio spécialisée en science-fiction. Leurs coffrets sont absolument somptueux et la qualité des lectures excellente. Et au fond, leur concept n'est pas si éloigné de celui du Topod, diffuser de la littérature de genre en format audio. Allez jeter un coup d'œil à leur site, dont l'adresse est disponible, là encore, sur utopod.com. Enfin, une petite nouvelle, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant. Olivier Noël assurera la rédaction en chef de la revue française Galaxy dès la fin de l'année. Stéphanie Nico lui a officiellement passé le témoin lors d'une petite cérémonie qui a eu lieu pendant les Imaginales. Alors, au revoir à Stéphanie, merci pour toutes ces années de belle évasion, et félicitations à Olivier. Pas de blabla rébarbatif pour aujourd'hui, je suis d'humeur clémente. Ceux qui veulent en savoir plus sur la licence Creative Commons et sur le fonctionnement légal du Topod peuvent se rendre sur notre site. En attendant le prochain épisode du Topod, je vous souhaite un agréable week-end et vous dis à très bientôt. Bye bye!